Bonjour messieurs.
Bonjour Nicole, bonjour Denis, bonjour à nos auditeurs et auditrices.
Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicole, bonjour Roger.
Oui, bonjour, voilà, donc nouveau numéro de votre magazine 13 Passions, hein, avec cette semaine deux invités. Nous avons Richard Frileux qui est désormais vice-président ou coprésident de la commission d'arbitrage. Ça va être intéressant pour savoir les nouvelles règles et pour voir si un jour on va régulariser toutes les règles. Et puis nous aurons Denis, le président du comité d'ordre de 2013.
Exactement, Roger, exactement.
Qui s'appelle
Pourquoi tu me poses des questions, tu me poses la question, tu le sais pas.
C'est parce que tu le sais
pertinemment, tu sais répondre. Ne me pose pas des questions auxquelles tu as les réponses. Pose-moi des questions si tu n'as pas la réponse.
Oui. Tu devrais faire la politique, Dani.
Jacques
voilà, le président du comité d'ordre de rugby à 13.
Ah, je crois que c'est M. Martinez.
C'est une petite vengeance, tu vois. Bon, je ne sais pas pourquoi.
Mais je sais.
Voilà. Monsieur Rodriguez, voilà.
Je pense que les auditrices et les auditeurs vont être déçus du président de 13 productions, là, de sa mauvaise foi et de ses vengeances.
Non, la mauvaise foi, c'est pas moi, hein, c'est toi, bon. Tu t'es dégonflé, tu n'as pas voulu faire face à ta décrépitude.
Voilà. Allez, dans tous les cas, on y va, parce que pendant, on va finir à 8 heures. Et pour l'instant...
À partir de la semaine prochaine, on sera tranquille.
Nicole pourra rentrer plus tard, mais ce soir, en attendant, c'est encore...
D'accord. Allez, tout ça, du temps, pour laisser le temps à notre ami Nicole. Alors, si on a le temps, évidemment, on aura peut-être quelques nouvelles internationales. On parlera de la NRL qui a repris, et puis on parlera, nous pourrons voir... Les dragons sont ministres. Voilà, Nicole. Avons-nous Richard Frileux?
Oui, Roger.
Impeccable. Allez, on attaque tout de suite. Richard Frileux, bonsoir.
Oui, bonsoir, Roger. Bonsoir à tous.
Oui, voilà. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Richard.
On dirait que tu es
à côté, là.
Pardon?
On dirait que tu es à côté de nous.
Et pourtant, je suis pas très loin, je suis dans l'Ariège, mais bon, je suis à côté.
Oui.
Ah, mais au moins dans l'Ariège, ça fonctionne.
Ça fonctionne, oui. Malgré la neige et la pluie.
Voilà. Alors, Richard Frileux, vous êtes donc vice-président de la commission d'arbitrage.
Je suis co-président même de la commission centrale d'arbitrage. Bon, j'ai été contacté par la fédération, par la nouvelle fédération, bien sûr. Et bon, écoutez, au début j'étais un peu hésitant, mais après, bon, on avait quand même des projets qui nous tenaient à cœur. Et donc j'ai décidé de m'investir un peu avec Magali, d'ailleurs, qui est quand même l'élu, qui est la présidente, et qui est l'élu de la fédération. Et on a structuré, si vous voulez, la commission centrale d'arbitrage, en recrutant aussi Jérôme Cavalli, qui est connu puisque j'ai travaillé avec lui pendant une paire d'années déjà, qui s'occupe surtout de l'international, et de Thierry Alibert aussi, qui revient aux sources. Quoi.
Qui revient aux affaires très vite.
Voilà, et lui qui s'occupe principalement de tout ce qui est élite, c'est-à-dire la formation d'élite, les désignations avec moi aussi, les désignations, et donc on a une très bonne équipe, alors on est quatre là, et écoutez, on essaie de fonctionner en fonction de ce qui se passe aujourd'hui avec la Covid, c'est pas facile. Je m'occupe aussi du recrutement, et justement c'est là que on n'arrive pas, si vous voulez, à recruter comme on voudrait, puisqu'on n'a pas grand chose à proposer aujourd'hui aux arbitres, puisque il n'y a que l'élite qui est en concurrence aujourd'hui. Voilà, toutes les autres divisions sont à l'arrêt, donc c'est pas évident pour pouvoir recruter, mais on fait du travail pour l'année prochaine surtout, voilà.
Oui, comment allez-vous faire pour recruter les arbitres? Bon, mon frère abstraction et du Covid, quel est votre projet pour recruter, pour étoffer ces arbitres?
Il n'y a pas de projet SP, c'est pas des trucs qu'on va inventer, c'est des choses qu'on faisait déjà à l'époque. Hein. Déjà, il faut essayer de garder les arbitres qu'on a aujourd'hui en activité. Et c'est pas évident. Il faut essayer de récupérer tous ces garçons qui ont disparu depuis 2-3 ans, et il y en a quand même un paquet. Et je suis en contact déjà avec une vingtaine de garçons aujourd'hui qui seraient prêts à revenir pour la saison prochaine, bien sûr. Et après, bien sûr, il faudrait essayer de trouver des nouveaux arbitres, si on peut dire ça. Dans les anciens joueurs aussi, on peut trouver des arbitres. On peut trouver des arbitres aussi, des jeunes en allant voir ces petits jouets en cadet, junior, et comme on faisait à l'époque aussi, quand on avait ces écoles d'arbitrage dans chaque département, ça permettait d'avoir un vivier. Donc il y a quand même assez de travail à faire à ce niveau.
Oui, parce que quand même, toutes ces écoles rugby, à un moment donné, il y a des jeunes qui seront limités peut-être par le physique ou autre chose, donc qui pourraient se tourner vers l'arbitrage.
Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut aller voir les écoles de rugby quand elles seront en activité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué d'aller voir les gamins, mais c'est ce qu'on faisait à l'époque. On allait sur le Lézignané, le Carcassonné, les Mouxins, on allait voir ces gamins, et on avait réussi à l'époque, vous vous souvenez, Roger, on avait quand même 25 gamins, et on faisait deux fois par mois, on faisait des entraînements avec ces gamins, et puis, il pouvait s'initier à l'arbitrage, il faisait des touches en cadet, il faisait des touches en minime. Et ma foi, après, quand ils s'étaient investis, certains même restaient pour faire... comme aujourd'hui, vous avez Kevin de la Rose, il fait partie de l'école de rugby de l'époque, et qui est aujourd'hui un arbitre confirmé, et qui arbitre l'élite. Donc, et ça, si on pouvait faire ça dans tous les comités, je vous garantis qu'on en aurait quand même des arbitres, on aurait une bonne... Bon réservoir d'arbitres, quoi.
Il en faut combien, à peu près? Comment ça représente le nombre d'arbitres nécessaires?
Alors, aujourd'hui, pour tout vous dire, aujourd'hui, on est à peu près 80 arbitres. Oui. Et pour faire tourner toutes les divisions, il en faudrait au moins 120. Voilà. Oui. Donc ça veut dire qu'il en manque une quarantaine, à ce jour.
C'est-à-dire qu'il faut assurer dans le central,
il
faut assurer les touches.
Et oui, quand vous faites, ne serait-ce qu'en élite, vous avez trois arbitres, plus le quatrième arbitre, donc après il y a l'élite 2, c'est pareil, la DN1, les juniors, la fédérale, les jeunes, bon après c'est réparti sur un week-end, mais ça demande un effectif assez conséquent quand même. Et aujourd'hui, on pourrait pas se permettre de pouvoir arbitrer tous les matchs, je pense. Il faudrait faire des doublons. Voilà, comme ça s'est fait l'année dernière déjà. Et ça fait une paire d'années que ça se passe comme ça, quoi. Et c'est pas bon.
Alors, il faut les former, ces arbitres. Quel va être le projet pour les former?
Alors, le projet pour les former, déjà, il faudrait qu'on puisse se voir, normalement, être sur le terrain, parce que aujourd'hui on travaille qu'en visioconférence, on se voit qu'avec des visios, donc vous savez, c'est compliqué un peu de travailler comme ça, quoi. Donc, l'idéal, c'est bien sûr, c'est le terrain. Donc, faire de la formation avec les arbitres d'élite, d'abord, dans un premier lieu. Voilà, nous avons déjà commencé avec Thierry Alibert, puisque... On a demandé aux arbitres actuellement qui sont en élite de faire des tests physiques. Et bon, on essaie de travailler avec eux de cette manière, parce qu'on leur fait confiance. Ils le font individuellement, bien sûr, mais bon, on leur fait confiance. On ne peut pas se permettre... L'idée, ça serait de se retrouver et de pouvoir travailler comme on faisait sur une journée ou deux, même sur un week-end, de pouvoir travailler sur le terrain. Et faire ça avec toutes les catégories d'arbitres. Voilà.
Oui, pour le moment,
la formation passerait comme ça.
Il faut attendre la reprise.
On est coincé pour tout, quoi. Je veux dire,
mais déjà, vous avez le projet, déjà, vous travaillez quand même bon.
Oui, mais déjà.
Vous n'arrivez pas les mêmes vides.
Non, mais pour vous dire que nous, on travaille, puisque au niveau de la CCA, aujourd'hui, on peut vous dire qu'à la Coupe du Monde, il y aura un arbitre français. Sur les 8 arbitres qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde, nous aurons un arbitre français. Et ça, c'est le travail fait par Jérôme Cavalli et par la CCA. Parce que ça faisait belle lurette que ce n'était pas arrivé. Il était en relation avec Stuart Cummins, qui est le directeur de la RFL. Et à ce jour, on a reçu l'info hier, c'est pas vieux. On aura un arbitre français à la Coupe du Monde.
Ah, voilà. C'est une très, très bonne chose.
Donc, on aura un arbitre français à la Coupe du Monde, et on en aura deux autres en attente, qui feront peut-être des matchs émergents avec des nations moindres, mais on en aura deux autres qui participeront aussi à des matchs internationaux. Voilà. Oui, et ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail qui a été fait. Bon, c'est vrai qu'on ne fait pas de publicité là-dessus, mais on a travaillé pour retrouver un peu ce niveau international qui avait disparu depuis quelques années, quoi. Voilà.
Oui.
Donc alors déjà, là, on a fait de gros efforts là-dessus et on a été récompensé. Voilà.
Alors justement, bon, puisque vous parlez de l'arbitre au niveau international,
oui.
Est-ce qu'on va arriver un jour, dans le rugby à 13, à avoir tous les mêmes règles? En Australie, en Angleterre et en France, on n'a pas les mêmes règles.
Est-ce
qu'on arrivera un jour à avoir les mêmes règles?
Mais moi, je demande que ça. Et d'ailleurs, moi personnellement, je ne comprends pas qu'on n'ait pas les mêmes règles. Je crois qu'on doit être le seul sport, peut-être, quelque part. Parce que les règles du rugby à 13 doivent être les règles dans tous les pays. Et c'est pour ça qu'en plus, le fait qu'on arbitre pas pareil, on va être pénalisé un peu, si vous voulez, par rapport aux Anglais et aux Australiens. Puisque notre championnat a toujours eu un an de retard par rapport aux règles nouvelles. Donc ça, il faudrait que ça cesse, quoi. Il faudrait se mettre à jour. Et je pense que là, c'est une erreur quelque part, parce qu'on aurait dû commencer justement avec ces nouvelles règles, la saison. On est en place que depuis 2 mois, donc la saison avait bien démarré déjà, donc on ne pouvait pas se permettre de tout chambouler. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de commencer avec les nouvelles règles.
Oui. Richard.
Oui.
Richard, parce que bon, il y a l'aspect des nouvelles règles, et je pense que Roger va continuer dessus, mais il y a aussi l'application de règles entre guillemets plus anciennes. Parce que hier j'entendais Fred Kamel, l'entraîneur de Carcassonne 13, qui parlait du match récent qui a eu lieu à Brutus entre les Dragons catalans et la sélection du président. Et il disait que il y a une, par exemple, quand on fait les tenues, et il avait été dit même au niveau international, et même en Angleterre, en Super League, ça avait été décidé il y a 2 ou 3 saisons, que dorénavant, le ballon devait être bien talonné.
Oui.
Et alors, Fred Kamel expliquait que en élite, les ballons, si les arbitres français appliquent cette règle, ce qui fait que les joueurs en élite se sont habitués à talonner le ballon comme il faut. Et alors qu'en Super League, il y a un peu à laisser aller. Et il disait que dans ce match autrefois, alors je ne sais pas, il n'expliquait pas que... Mais dans la conception du jeu, il disait bien que sûr. Chaque fois, la sélection élite avait du mal parce que le temps de faire le tenu en le talonnant comme il faut alors que les dragons le jouaient
souvent, et moins vite automatiquement, c'est sûr.
Et ben, voilà, exactement, donc ça posait comme tu disais,
voilà, il jouait moins vite, c'est sûr, mais ça a été un peu je veux dire, ils ont laissé aller un peu le système du tenu. On a joué de plus en plus vite, si vous voulez. Donc, dans la logique des choses, en jouant de plus en plus vite, le ballon, on le touche de moins en moins, jusqu'à ne plus le toucher même. Donc, ça fait que, bon, les arbitres ont été indulgents par rapport à ça, ils ont laissé faire. Donc, il faut voir comment on va s'organiser au niveau international pour la Coupe du Monde. Il faudrait peut-être que les pays se mettent d'accord avec la façon de
harmoniser les règles.
Et d'harmoniser les règles et de pouvoir les jouer de jouer les tenues de la même façon. Parce que moi aussi, je me suis aperçu, même en France aujourd'hui, il y a des arbitres français qui sanctionnent justement quand une tenue n'est mal jouée. Alors que c'est vrai que si on voit la Super League, il faudrait pénaliser chaque tenue pratiquement. Parce qu'il ne touche jamais le ballon. Et donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qu'on a laissé faire. Et peut-être qu'on a été dépassé par le rythme de la façon de jouer, quoi. Donc, ça accélère le jeu. Mais je sais qu'à un moment donné, ils avaient demandé de faire au moins le geste. Vous voyez ?
Exactement,
Même sans toucher le ballon, mais au moins le geste. Bon. Et après, le geste, petit à petit, a disparu aussi. Donc, il va falloir harmoniser ces règles. Et essayer d'être tous sur la même longueur d'onde. Mais je suis d'accord avec vous, là, il n'y a pas de souci.
D'autant plus que le tenu, c'est ce qui caractérise le rugby à
13. Ah ben oui, c'est ce qui caractérise le rugby à 13, bien sûr.
Je suppose que vous avez dû voir, je pense, regarder les matchs de NRL, vous en tant qu'arbitre, en tant qu'arbitre international, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles règles?
Eh bien, écoutez, de toute façon, toutes ces règles nouvelles sont faites pour accélérer le jeu. Et là, on s'aperçoit que ça va de plus en plus vite. c'est même quand vous voyez qu'il y a des matchs où on peut jouer 70 minutes de jeu effectif, c'est ça fait rêver quoi. Ça fait rêver. Moi, je suis pas contre, au contraire, hein. c'est du spectacle. Hein. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est du spectacle. Hein. C'est, on se régale, quoi. Il y a les arbitres, ils sifflent en RL, ils sifflent de moins en moins. Je crois que souvent, ils ne dépassent pas les 10 pénalités, tellement que ça va vite. Hein. Et c'est, quand vous allez voir un match de ce niveau, vous pouvez que vous régaler, quoi. Donc, c'est peut-être. C'est sûr qu'il n'y a pas photo, quoi. C'est des règles qui elles sont toutes faites pour que le jeu soit de plus en plus évolue de plus en plus et évolue dans la vitesse. Quoi. Donc,
oui, il faut une condition physique quand même extraordinaire.
Ça, oui. Ah, ça c'est un jeu qui. Oui, ça vous dit, c'est sûr que si vous n'avez pas la condition physique, c'est pas la peine de jouer. Ou alors vous allez jouer 5 minutes.
Hein. Oui, mais est-ce que c'est vraiment pas d'avantager un peu le rugby après français, parce que bon, quand on va jouer contre la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre,
ah ben oui, mais
on n'aura pas le même rythme. Bon,
mais non, mais déjà que dans la normale, on avait toujours un peu de retard, c'est vrai, il faut le dire. Et là, c'est sûr que là, ça va pas arranger. Mais bon, il faut faire confiance, et quand même, on aura quand même une majorité de joueurs de Super League, hein, parce que la Super League aussi, ça joue très vite. Hein. Donc, et puis après, bon, il faudra s'habituer de toute façon.
Ça, ça, oui, à ça, condition qu'il y ait les Français qui jouent dans les équipes françaises en Super League ou en Championship. Denis.
Oui, moi, un autre aspect, en Australie, là, pendant deux saisons, je crois, enfin, deux ou trois saisons, ils ont mis en application le double arbitrage.
Oui, oui, oui. Ça a duré plus de deux ans, ça a duré 5 ou 6 ans.
Peut-être un peu plus, en effet. Ouais. Et donc, bon, l'année dernière, là, dans le cadre du Covid, ils sont revenus à un arbitrage au niveau central unique. Moi, je veux savoir un peu ce que tu en penses. Moi, personnellement, je me demande, alors bien sûr, il y a le problème du nombre d'arbitres que tu évoquais tout à l'heure, il y a eu quelques tentatives pour des finales, je crois, en France, etc., où il y a eu, pour certains matchs, dans les phases finales, des arbitres doubles. Et moi, je trouve que l'arbitrage en double, même en Australie, ça a nettoyé certains secteurs, en particulier
je suis d'accord aussi. Mais bon, en France, je pense qu'on aura du mal à pouvoir le faire, hein, parce que avec le problème d'effectifs qu'on a aujourd'hui. Mais il faut savoir que les Anglais avaient essayé de le faire aussi, et les Australiens l'ont fait pendant des années, et ils se sont arrêtés. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de. Je crois que ça a été un problème financier, d'abord. Parce qu'il faut savoir quand même que même au niveau d'Angleterre, ils ont perdu pas mal d'arbitres aussi, des délégués. Et je crois que ça a été surtout financier qu'ils ont revu ça à la baisse, quoi, si vous voulez. Donc ils ont remis qu'un arbitre. Mais c'est vrai que pour le jeu, moi je trouvais que c'était beaucoup plus propre, ça c'est sûr.
Oui, parce que, Richard, parce que plus on dit qu'il faut que le jeu aille de plus en plus vite, dans les six gains remplacent les. Etc. Bon, dans les joueurs, mais pour les arbitres, pour un arbitre central, ça exige une condition physique aussi extraordinaire.
Bien sûr,
C'est pour ça que s'il y en a deux, alors je sais que c'est compliqué, mais s'il y en a un qui, par exemple, c'était le principe en Australie, un qui marquait, qui faisait la défense plutôt, et l'autre qui était proche du tenu.
Voilà, il y en a un qui était sur le tenu, l'autre qui était en défense. Voilà. Voilà. Et ça permettait d'avoir, oui, bien sûr, il vaut mieux avoir quatre yeux que deux, mais pour y voir encore plus clair, c'est évident. Mais après, voilà, nous, on l'avait essayé en France, bon, on l'avait fait en France, ça marchait.
Oui, je sais.
Sur certaines marches, ça a marché, bien sûr. Et puis là, le fait que les Australiens, j'étais étonné aussi, moi, de voir que les Australiens étaient revenus à un arbitrage, donc bon, pourquoi pas aussi.
Est-ce que ça pourrait être quelque chose que vous pourriez introduire, par exemple, au moment, pendant, pour les phases finales, par exemple?
Peut-être. Je ne peux pas vous dire qu'il se peut qu'on le fasse, mais c'est sûr que si un jour on revient avec un effectif assez correct, peut-être qu'on pourra se pencher sur ça, quoi, pour pouvoir faire sur des Magic Weekend ou même sur des phases finales avec du moment qu'il y aura moins de matchs, pourquoi pas remettre deux arbitres sur un match, bien sûr que c'est intéressant. C'est intéressant.
Je vais me faire l'avocat du diable. On parle d'harmoniser les règles, le rugby à 13. Hein.
Ouais.
Et là, si la France vient à deux arbitres.
Mais non, mais si c'est les règles, elles seront toujours les mêmes, mais avec la différence, c'est qu'il y aura deux arbitres. Mais la règle, elle ne changera pas, quoi. Voilà. C'est le fait de pouvoir arbitrer à deux.
Et aussi, que pensez-vous du fait qu'on est au bunker, où on a réduit les arbitres, c'est peut-être pas plus mal, mais on leur donne davantage de pouvoir. C'est-à-dire que le bunker peut intervenir directement sur l'arbitrage.
Oui. Donc ça, vous parlez de quoi là?
C'est-à-dire que un arbitre accorde un essai.
Ah oui.
Oui, oui, le bunker peut dire attention, bon, il y a ça, bon.
Oui, mais vous avez droit qu'à une chance, là, ce coup-là.
Je comprends mal.
Ah d'accord. Bon.
Il y a l'arbitre accorde un essai et il siffle, il ne demande pas la vidéo. Et la vidéo intervient en disant attention, nous on n'est pas d'accord, on refuse l'essai parce qu'il y en a un avant qu'on n'avait pas vu ou une faute qu'on n'avait pas vue.
Oui, mais l'arbitre, s'il peut voir la vidéo et qu'il peut voir qu'il se trompe, il peut revenir sur sa décision.
Non, attends, j'explique, je répète. Hein. L'arbitre accorde l'essai, demande pas la vidéo, l'arbitre. L'arbitre ne demande pas la vidéo. Et c'est le bunker qui dit, non, il n'y a pas essai parce que nous, on a vu ça.
D'accord.
Si je peux ajouter une précision, ça permet quand même, parce qu'on était arrivé à une situation en NRL, en Super League, nous en France, on n'a pas de vidéo. On était arrivé à 90% des essais, les arbitres demandaient la vidéo.
Oui, c'est vrai.
Et là, donc, en faisant ça, ça va dans le sens toujours de la vitesse, etc. Les arbitres, à partir de là, c'est eux qui prennent la décision comme on fait en France ou comme on faisait avant quand il y avait en sachant que derrière ils demandent que la vidéo que lorsque vraiment ils ont un gros doute
ils savent que
s'ils accordent un essai tant que ils accordent l'essai mais tant que la transformation n'est pas tentée le bunker peut dire attention il faut revoir parce que il y a une faute
ça permet de réduire le
nombre de
revenir sur sa décision. Mais si ça peut permettre si ça peut permettre à l'arbitre, mais tout peut être bon. Si ça permet à l'arbitre de faire le moins d'erreurs possible, même s'il doit revenir sur une décision, et qu'il se trompe, qu'il aurait pu se tromper et qu'il se trompe pas, mais bien sûr qu'il faut se servir de tout ça. Après tout, l'arbitre c'est qu'un être humain. Hein. Il va se tromper. Il est comme les joueurs ils font des fautes. L'arbitre il peut se tromper, il peut ne pas avoir vu quelque chose. Et puis s'il peut être aidé, pourquoi pas, bien sûr.
Et puis ça permet, moi je trouve que ça permet, enfin sur les premiers matchs qu'on a vus là, ça permet aux arbitres de nouveau de reprendre la main, d'accorder par exemple les essais avec ceux qu'ils ont vus, sans nécessairement se reposer obligatoirement et dire en disant, bon ben, parce que souvent j'ai un doute, je fais appel systématiquement à la vidéo, c'est toujours dans cette... C'était cette volonté de mettre de la vitesse.
Se servir trop souvent de la vidéo aussi, c'est pas trop terrible, quoi, parce que...
Exactement.
C'est vrai qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions aussi, quelque part. Il a des choix à faire, quand même. Aussi.
Exactement.
Il est pas seul. Il y a des juges de touche qui travaillent avec lui aussi. C'est un travail qui se fait à trois, bien sûr. Donc... Il travaille à trois, mais des fois il peut y avoir même des arbitres d'un but, donc c'est un travail d'équipe. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas que malgré tout ça, on peut encore oublier des choses, bien sûr.
Mais là aussi, c'est un changement fondamental de règles, puisque depuis toujours, une fois qu'un arbitre qui avait accordé un essai, qui avait sifflé, une fois qu'il avait...
On ne pouvait pas revenir sur la décision. À l'époque, c'était ça.
Voilà. Et bien là... On peut revenir sur la décision, de le bunker, la vidéo, le bunker, enfin, peut faire revenir un arbitre sur la décision. Donc, c'est un changement fondamental de
la règle. Si, bien sûr, en plus, si ça permet d'éviter qu'un arbitre de s'être trompé, c'est bien sûr que ça vaut le coup. Voilà. Mais tout est bon à prendre. Hein. Si on peut faire le moins de fautes possible au niveau de l'arbitrage, eh bien, écoutez, les équipes, elles seront bien contentes. Quoi. Voilà.
Et le public
aussi. Et il y aura moins de... voilà, de problèmes sur certains matchs. Mais on n'en est pas là, nous, on pense encore. On a un peu de retard par rapport à tout ça.
Donc, ensuite, il y a une nouvelle règle qui limite les mêlées, hein, en Australie, on l'a vu, hein, et qui active le jeu. Mais en Angleterre, cette année, ils suppriment carrément la mêlée. Est-ce que c'est une bonne chose?
Ben écoutez, j'ai cru comprendre que les mêlées avaient été supprimées par rapport à la Covid, aux problèmes sanitaires qui se passent aujourd'hui dans le monde. Ça permettait déjà d'éviter cet attroupement au milieu du terrain. Et puis, bien sûr, ils se sont aperçus. Bon, vous savez, on ne va pas se voiler la face. Hein. Les mêlées à 13, on se pose, le ballon, il sort de suite. Quoi, hein. Donc, on ne pousse plus, c'est plus les mêlées de l'époque. Hein. Vous le savez, vous avez connu les mêlées où les talonneurs talonnaient et où ça poussait. C'est plus ça, quoi. C'était plutôt un genre de gros tenues qu'on faisait avec 6 personnes et ça jouait. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, à la rigueur.
D'accord.
Puisque ça va plus vite, déjà. Vous avez vu comment ça joue. Et c'est plus agréable à regarder, quand même. Voilà.
Oui, exactement.
Donc, ça doit accélérer le jeu.
J'ai pas votre question plus précise à demander à Richard. Bon, moi, simplement, peut-être, j'ai été agréablement surpris par le fait que Richard ait dit dès l'entrée là qu'ils avaient récupéré un nombre d'arbitres qui souhaitaient arrêter. Et ça, c'est décidé d'arrêter. C'est une excellente nouvelle, quoi.
Mais on a perdu quand même, on a perdu pas mal d'arbitres. En 3 ans, on a perdu pas mal d'arbitres. Et aujourd'hui, aujourd'hui bien sûr, moi je suis là pour ça aussi. Hein. Je suis là pour essayer de recruter des garçons et de retrouver un peu ce qu'on pouvait vivre à l'époque avec une bonne ambiance, qu'on pouvait se retrouver sur des week-ends, travailler ensemble et être une équipe en fait, vous voyez ? Une équipe d'arbitres, hein, oui. Voilà. Oui. Et tout ça, ça s'est perdu au fil des ans. Et on va essayer de retrouver... Bon, après, avec le problème sanitaire qu'il y a aujourd'hui, c'est compliqué. Mais on travaille surtout pour la saison prochaine. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on aura un arbitre pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est quand même...
on ne connaît pas le nom.
C'est quand même pas mal. Vous le saurez, en temps voulu, le nom.
J'ai tenu le piège, ça n'a pas fonctionné. Voilà.
Moi, j'aurais juste encore une question, ce sera la dernière. Richard, si elle me revient, elle est partie.
C'est pas grave.
Oui, non, est-ce qu'on ne pourrait pas, oui, voilà, c'était ça. Est-ce que quand même on ne pourrait pas, alors j'aime pas trop le terme obligé ou imposé, mais quand même demander au club au moins d'élite 1 pour commencer, d'avoir... au moins de désigner dans chaque saison un jeune arbitre, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, pour aller dans l'école de rugby ou un arbitre un peu plus...
C'est prévu dans le programme que nous avons, là, c'est prévu tout ça aussi.
D'accord.
Voilà. Bon, donc on le mettra en place et bon, on est arrivé il y a 2 mois, donc... On essaie de faire pas mal de choses et puis bon, on est bloqué plus ou moins par ce petit problème-là. Mais on essaie d'avancer comme on peut et en essayant de se préparer vraiment pour la saison prochaine. Voilà. En espérant qu'on récupérera pas mal de garçons.
D'accord.
Pour pouvoir arbitrer toutes les divisions. Voilà.
D'accord, Richard.
Alors moi j'ai un dernier message pour Richard. Oui. Denis et moi, nous adorons les tripes. Voilà.
Ah, mais, alors là, je suis parti à un week-end de pêche, mais on fait du no-kill, je suis désolé pour vous. Hein. Donc, on ne tue pas le poisson, on le rejette.
Ah, bon. D'accord. Ça, c'est des écolos, voilà.
Ça m'a fait plaisir de vous entendre, ça m'a fait plaisir de vous entendre.
Voilà, on aura l'occasion de se retrouver
sur
les antennes en début de saison prochaine. Bon,
avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
C'était important. Voilà. Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonsoir.
Roger.
Oui, je t'entends.
Non, je voulais simplement dire que quand même, bon, un duo Richard Frileux et Thierry Alibert, quand même, ça a de la gueule au niveau de voilà, c'est du solide et parmi.
Puis moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y en a qui étaient partis et qui reviennent.
Voilà, donc je pense que ces deux arbitres quand même qui ont un passé, qui sont reconnus par leur père, et je pense qu'à ce niveau-là, bon, il y en a d'autres d'anciens arbitres, mais ou même dans les arbitres actuels qui. Mais là vraiment c'est quand même deux arbitres vraiment qui ont montré les choses.
C'est un arbitre international
et Thierry Alibert aussi.
Ah, c'est solide, oui.
Voilà, donc ça peut. Quand il y a des hommes comme ça qui tirent, normalement, ça amène des autres un peu à ça entraîne tout le monde, quoi, on va dire. Enfin, voilà, on verra, on suivra ça de près.
Très bien, voilà. Nicole, une petite pause pour nos partenaires, et après on retrouve Jacques Rodriguez, le président du comité d'ordre de rugby à 13.
Le rugby à 13 vous est présenté par
Comptoir des Vins et Terroirs. Dans ce lieu élégant et chaleureux, Stéphanie vous accueille pour vous satisfaire et vous faire partager sa passion des vins du Languedoc. Elle vous les fera découvrir tout en discutant de nos mets régionaux. Elle vous fera apprécier l'esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre mémoire et notre culture.
La SARL Berger Frères de l'étang de Marseillette vous propose ses fruits, légumes, produits régionaux, ses jus de fruits, confitures, miel, riz, huile, olive, mais aussi viande, charcuterie, fromage et produits laitiers. Pour des produits de qualité au meilleur prix du producteur au consommateur, la bonne adresse sur Carcassonne, SARL Berger Frères, boulevard Denis Papin, zone industrielle La Bourriette à Carcassonne, 04 68 47 68 77, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Brasserie Le Donjon, à quelques pas de l'hôtel du Donjon, en plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, alliant la magie d'un lieu chargé d'histoire et de saveurs de notre terroir. Éric Bivin aura à cœur de vous concocter et de vous servir des mets traditionnels régionaux dans ce relais du pays cathare, à déguster en couple, en famille, en groupe ou en vacances.
Le rugby à 13 vous est présenté par
Restaurant La Barbacane. Depuis ses roseries jusqu'aux vitraux, dans un cadre de charme et d'élégance, le chef de cuisine Jérôme Rion met l'accent sur une cuisine de tradition renouvelée avec raffinement et subtilité, offrant un panorama enchanteur sur les jardins de l'hôtel et les remparts de la cité. Venez déguster un dîner romantique aux chandelles ou en famille, accompagné d'interprétations musicales au piano.
Vous êtes un professionnel et vous avez besoin d'un bon conseil pour vous aider et vous soutenir au quotidien? Le cabinet Jean-Marc Guillaume Sinex, expert comptable, avenue Claude Bernard, à côté du Conseil Général à Carcassonne, est à votre écoute. Les missions d'assistance et de conseils les plus étendues vous sont proposées dans les différents domaines de la gestion d'entreprise, comptabilité, droit fiscal, droit des sociétés, droit social, création et reprise d'entreprise. N'hésitez pas à contacter le cabinet Jean-Marc Guillaume Sinex au 04 68 71 19 36. Assurance Jérôme Dupin, agent général Allianz, pour une solution simple et idéale à tous vos besoins, auto, habitation, santé, financier. Assurance Allianz, cabinet Ten et Dupin, 295 chemin de Mackens, ZI La Bourriette à Carcassonne, près de Décathlon.
Et voilà, deuxième partie de votre magazine 13 Passions sur les 101.3 de Radio Marseillette et marseillettefm.com. Nous allons retrouver le deuxième invité de ce magazine, en l'occurrence Jacques Rodriguez, qui est le président, le nouveau président du comité d'ordre de rugby 13. Nicole, avons-nous notre deuxième invité en ligne?
Tout à fait.
Il est là. Bonjour Jacques Rodriguez.
Bonjour Roger. Alors, et bonjour à tout le monde.
Voilà. Alors, monsieur le Président, il faut appeler un chat, monsieur le Président.
Bonjour, monsieur Royette.
Bonjour à vous.
Monsieur le Président, alors, quand je vous ai contacté, vous m'avez parlé d'un projet que je trouve, moi, très important pour le rugby à 13, projet que vous préparez pour la saison prochaine, évidemment, parce qu'avec le Covid, pour le moment, tout est bloqué, mais malgré tout, vous avez fait un travail extraordinaire qui concerne les jeunes. Les jeunes, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous comptez faire?
Oui, tout à fait. Alors, je vous remercie pour le travail extraordinaire. C'est un peu prématuré. J'espère qu'on va pouvoir arriver à concrétiser ce projet, à le mettre en place. L'objectif étant pour nous de mettre en place un brevet professionnel qui est un équivalent niveau bac en sport collectif avec une spécialité en rugby à 13. Et on est en train de s'organiser pour pouvoir mettre en place cette formation sur Carcassonne, sur notre département. Bon, l'information nous est venue au départ de nos collègues de PACA qui ont mis en place cette structure depuis 5 ans déjà. Chaque année, ils forment en moyenne entre 15 et 20 étudiants via un centre de formation et ils font ça en collaboration avec l'équipe d'Avignon, avec le Pôle Esport d'Avignon. Ça se passe très bien. Ce qui leur permet effectivement de former des jeunes qui sont à la fois dans les clubs, qui aident les clubs dans leur développement, dans leur organisation. Et il y a encore d'autres pistes sur lesquelles on travaille, entre autres auprès des écoles, mais qui ont également la possibilité, à la fin de ces 2 ans, de sortir avec un projet d'éducateur sportif spécialisé en rugby à 13, et qui leur permet, dans la mesure où c'est en plus reconnu par l'éducation nationale, de postuler dans des structures telles que les collectivités territoriales, mais également d'aller vers les entreprises, puisque c'est quand même un diplôme qui s'utilise plutôt bien actuellement. Donc voilà où nous en sommes. C'est un beau projet parce qu'il va nous permettre, partant du principe qu'on a quand même sur l'Aude une grosse structure de clubs, puisqu'on a 10 clubs seniors actuellement, mais on a aussi des écoles de rugby qui peuvent utiliser ces étudiants. L'objectif, c'est de permettre à nos clubs de pouvoir utiliser des jeunes qu'ils vont à la fois avoir dans les clubs et en même temps former, et pour lesquels ils vont valoriser le parcours. Donc c'est, comme vous le disiez au départ, un projet éducatif qui est extrêmement intéressant, important, et qui est, à mon sens, quelque chose de très positif pour notre département, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a un département de 380 000 habitants, c'est pas un gros département. Quand on le compare à Toulouse, où ils sont pratiquement 500 000, mais on a quand même 10 clubs seniors, 6 écoles de rugby, donc on est quand même avec une forte implantation trésiste et un bon maillage sur lequel on doit continuer à travailler, qu'on doit développer.
Denis
mais pas, si vous avez d'autres...
Denis est parti.
Oui, non, moi je trouve que c'est... Oui.
Alors, le projet a été mis en place tout simplement parce qu'effectivement, au départ, ces BPJEPS sont super intéressants de par leur parcours. Bon, en plus, on a la possibilité dans cette formation de bénéficier du soutien d'un centre de formation qui fait ça depuis 5 ans et qui est prêt à nous accompagner sur toute la partie inscription, assistance, vraiment prendre en compte le fait qu'on est une structure, la plupart du temps, on a des structures amateurs qui ne sont pas obligatoirement organisées pour gérer des profils de ce type-là. Le deuxième avantage du système, c'est qu'en plus, au-delà du fait qu'on les forme sur le rugby à 13, on peut aussi les amener à se former sur le sport collectif en général, mais également sur des brevets professionnels qui sont à orientation musculation, fitness, et qui vont vers d'autres, le sport forme et force, qui vont vers d'autres profils d'entreprise quand ils finissent leur BP. On nous a également proposé, dans le cadre de cette formation, de donner aux jeunes qui vont démarrer la possibilité, après ce niveau bac, d'aller vers un bac plus 2 qui, lui, aurait plus une orientation commerciale n'est pas le mot, relationnelle, orientée vers les partenaires et qui permettrait aussi, et en même temps marketing, qui leur permettrait de continuer à vivre et à travailler au sein de nos structures tout en continuant à étudier et à obtenir et à développer leur savoir-faire, évidemment.
Alors, vous avez pris contact déjà avec pas mal de clubs, quand même.
Oui, tout à fait. ça fait, ben écoutez, on les a, là ça fait, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir un peu tout le monde. On a commencé à voir le projet à Limoux, où le club de Limoux était intéressé pour certaines personnes chez eux, sachant que au-delà du fait que c'est plutôt orienté, puisque c'est un BP, vers des catégories de jeunes, vers des gens qui ont entre 18 et 25 ans, on peut aussi, via d'autres moyens, comme le Transition Pro, le proposer à des personnes qui sont plus âgées, qui sont en reconversion et qui ont envie de participer à cet effort et de valoriser leur savoir-faire également. Parce que d'une certaine façon, c'est ce qu'on leur propose. Sur Limoux, on a déjà commencé à travailler dans ce sens-là. On a, cette semaine, j'ai vu également les clubs de Ferrals, de Lézignan et de Poma. Vous voyez, quelle que soit la structure, on peut tout à fait chercher la solution pour peut-être amener un stagiaire, un étudiant de ce type-là à participer et à travailler, à collaborer au développement d'un club, même si c'est un club de fédéral, un club amateur. Dans la mesure où on travaille sur des bassins qui sont quand même assez identifiés, puisqu'on a le Lézignanais, le Carcassonnais et le Limouxin qui sont quand même forts comme bassins, l'objectif étant de pouvoir également aller toucher les écoles, puisque un jeune en formation dans ce cadre-là peut également rentrer dans des écoles et expliquer ou dans tous les cas promotionner le rugby auprès des enfants. Et il y a énormément de pistes possibles. On a vu ça avec Ferral hier, j'étais à Ferral, on en a parlé également avec le président et avec l'entraîneur, avec M. Plot. On a également vu ça avec M. Estebanez à Lévignan. On a, à Poma, il y avait M. Ramel, il y avait M. Ginet. Et là, lundi, je rencontre les dirigeants de la SEC avec les dirigeants de Villeneuve. Donc, vous voyez, on aura pratiquement vu tout le monde, sachant que Belvez également, on a fait le point avec la présidente, et Corbière 13 en même temps. Vous voyez que finalement, tout le monde peut être concerné, sachant que les écoles de rugby ne sont pas en dehors de ce système-là, puisque même dans leur cadre, compte tenu du niveau de prise en charge qu'on a sur ces candidats, les écoles de rugby peuvent également bénéficier d'un soutien de ce type-là et de quelqu'un qu'elles forment en même temps. Les pistes sont multiples, hein. C'est un projet territorial. C'est intéressant comme approche.
Oui, c'est un projet très important. Vous comptez sur une population de combien à peu près dans un premier temps?
J'espère que nous serons capables d'ici 15 jours, 3 semaines, nous serons capables de dégager une liste de entre 15 et 20 personnes qui nous permettrait à ce moment-là de lancer en octobre notre formation sur Carcassonne et de mettre en place un cercle vertueux qui nous permettra au fur et à mesure et au fil du temps de mettre en avant cette volonté qu'on a de former également et d'associer la formation au développement du sport. En parallèle, ça nous permettra de créer du réseau par rapport à des jeunes conformes qui vont normalement trouver de l'emploi, puisque c'est la finalité quand même, sur les sites et sur les bassins sur lesquels ils vont être formés. Donc l'objectif, c'est d'en avoir entre 15 et 20 pour faire notre première formation. On est suivi hebdomadairement par l'organisme de formation qui nous appelle, avec qui on fait le point. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques semaines pour pouvoir expliquer qu'on a réussi à valider le projet, qu'on met en place le groupe, puisque c'est ça quand même la finalité de tout ce qu'on est en train de préparer.
Oui, c'est un projet très intéressant. Moi, j'en reviens aux écoles aujourd'hui. Bon, la saison, espérons qu'elle va démarrer comme il faut. Bon, ces écoles aujourd'hui, il faut leur donner de la matière, des tournois, des rassemblements. Et je suppose que vous allez travailler aussi dans ce sens.
Il est en train de se passer des choses. On espère tous qu'effectivement, dans le courant du mois d'avril, les choses pourraient, des signaux positifs pourraient être lancés par le gouvernement. Et peut-être qu'effectivement, sur le mois de mai, sur le mois de juin, on aura une fenêtre dans laquelle on pourra peut-être faire jouer nos gamins, les faire s'exprimer, les faire courir, parce que c'est quand même la finalité, partant du principe qu'on commence tous à être bien conscients que la mise en place d'un championnat est aujourd'hui illusoire, et que si nous réussissons à mettre en place des plateaux ou des rencontres qui permettent au moins aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que ça touche nos écoles de rugby, mais la problématique est la même pour nos clubs fédérales, peut-être qu'on arrivera à faciliter la reprise sur l'année prochaine. Parce qu'on est tous conscients que ça va être compliqué la fin d'année. Hein. on manque quand même encore de visibilité. Hein.
Oui.
J'espère qu'effectivement, comme vous le dites, on aura la possibilité dès le mois de mai de commencer à recourir et peut-être à ce moment-là d'envisager quelques échanges. C'est bien déjà si on arrive à faire ça.
Denis, d'autres questions ? Denis, il n'est pas là. Je ne sais pas où il est allé, Denis, il n'est pas là.
Bon, mais...
Oui, juste pour revenir sur le sujet qui me paraît...
Si.
Alors oui, mais vous ne m'entendez pas ?
Si, je vous entends très bien.
C'est toi qui nous entends.
Nicole, tu ne m'entends pas ?
Si, on l'entendait bien.
Si, on t'entendait bien, mais visiblement, c'est toi qui n'entends pas en temps réel.
Je vous entends. Non, je vous entends. J'entendais monsieur, j'entendais pas Roger, mais enfin bon, mais bon, oui, moi je, pour revenir, c'est Roger qui est sourd, pour revenir au sujet qui me paraît extrêmement intéressant, je pense que, et juste une question, et enfin une constatation, c'est que ce projet correspond à un problème, en effet, en particulier chez les jeunes, quand les jeunes bacheliers ou qui arrivent à ce niveau-là, à la fin de la phase cadet au début des juniors, ou malheureusement dans un département qui n'est pas particulièrement universitaire, où les jeunes sont obligés pour aller se former, que ce soit en enseignement général ou même en enseignement professionnel, sont obligés souvent de partir, de quitter le département. Et donc c'est vrai que ça fait que les clubs perdent des jeunes au moment qui pourraient justement... poursuivre au niveau des catégories, de la catégorie senior, quel que soit le niveau. Et ça, je trouve que par rapport à ça, il me semble que c'est une opportunité que vous, si ça fonctionne, que vous allez donner à ces jeunes de poursuivre leur formation sur le territoire. Et ça, c'est très important.
Vous avez d'autant plus raison que à travers les échanges qu'on a eus avec les clubs sont très conscients de ça. Ils savent pertinemment que dès que les jeunes commencent à étudier, ils ont tendance à partir, c'est vrai. Il faut savoir que ce BPJEPS, on n'invente rien. Il a déjà été mis en place de façon régulière sur des villes comme Toulouse ou sur Perpignan. Ce qui fait que nos jeunes étaient obligés de partir dans tous les cas pour pouvoir suivre ce cursus, ce qui nous empêchait de les garder sur place et ce qui ne nous permettait pas de profiter de leurs compétences et de l'évolution de leur cursus au niveau local. Et là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, on va leur donner l'opportunité de vivre cette expérience chez nous, de les garder sur place avec les partenaires et avec les clubs, de façon à ce qu'ils puissent s'implanter localement. Et effectivement, on va peut-être réduire l'évaporation qu'on a à travers tous ces jeunes qui partent et qui vont faire leurs études ailleurs. Vous avez raison, ça fait aussi partie du projet. Et c'est vrai que cette structure de formation nous amène, cette forme de formation, dans la mesure où on a quand même un gros potentiel dans l'Aude, peut nous permettre de garder plus longtemps des jeunes, comme vous le disiez, entre 18 et 20 ans, c'est le moment crucial où la plupart s'en vont quand ils doivent partir. D'autant plus qu'on leur amène une rémunération, ce qui est quand même pas neutre dans le cadre d'une formation. Sachant que l'alternance est quand même un projet qui se développe bien. Quoi. Donc c'est le cheminement qu'on a est en accord avec ce qui se fait aujourd'hui.
D'accord.
C'est pour ça que bon, c'est vrai que... C'est pour ça que c'est un excellent projet.
Oui, je vous remercie, c'est gentil. Et on va tout faire pour le mener à cœur, évidemment.
Nous aurons l'occasion d'en reparler avec le président du comité de la Trêve. Il sera toujours le bienvenu. Radio Marciette, merci.
Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil à vous et je vous dis à bientôt. Et bonne continuation à tout le monde. Au revoir.
Au revoir. Alors Denis, on a quelques petits problèmes de...
À bientôt, monsieur le président. Au revoir.
On a quelques petits problèmes de communication, mais enfin, on va y arriver. Denis, est-ce que tu as quelques... Je sais que tu as quelques infos internationales, Denis. Voilà, moi j'entends plus rien.
Alors, est-ce que vous m'entendez normalement ou est-ce qu'il y a un décalage?
Oui, là, quand tu parles, on t'entend, mais si tu dis rien, on t'entend pas.
Nicole?
J'ai l'impression que tu nous entends avec un décalage.
Non, mais bon, je parle, Roger, mais est-ce que...
Quand tu parles, ben non, là, t'es parti, toi.
Bon, ben, on va, Bon, peut-être on pourrait faire une petite pause et le temps juste de...
Voilà, on est reparti.
Nicole, une petite pause.
Allez, on se recale. Et... est-ce qu'on fait une petite pause et on se recale?
Oui, 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 on va faire une petite pause et on se recale. Ça Nicole, va. Une petite pause.
Radio Audoise.
Allez, j'ai recalé Denis en coulisses, voyons ce que ça donne.
Denis. Oui, oui, bon, en coulisses, on s'est recalé, hein.
Bon.
Est-ce que, ça, est-ce que c'est bon? Oui, hein.
Bon, c'est bon, on t'entend, ça y est.
Voilà, d'accord, allez, donc, bien, on va parler quelques infos internationales qui nous ont été communiquées par notre ami Thierry, évidemment. D'abord, au niveau de la Russie, vous savez que la Russie, le rugby à 13, entre guillemets, était devenu un sport absent et même qui n'était plus reconnu, contrairement à ce qu'il avait été dans le passé. Donc là, il est en train de redémarrer avec, il a le soutien grâce au soutien apporté par un club anglais, je pense, de la Southern Conference, Les All Gold, qui sont basés à Gloucester, qui sont, je pense, un club de bar là, amateur, et qui aide actuellement la fédération russe, qui ont permis en fournissant du matériel, en fournissant des équipements, des maillots, etc., même des kilts, mais ça c'est pour les Écossais. Ils ont fourni le matériel, ce qui a permis, par exemple, deux équipes de la capitale de Moscou d'organiser un match d'exhibition. Aujourd'hui, on peut, les responsables de la Fédération russe de rugby à 13, disent aujourd'hui, on peut annoncer à présent que le rugby à 13 est de retour en Russie, puisque ça leur a permis, ces quelques matchs d'exhibition qui ont été réalisés, leur a permis d'intégrer la Fédération des sports nationaux non olympiques, donc qui les a acceptés en leur sein, Monsieur Kolikov, qui est le président de la fédération, entre guillemets, de la fédération russe, hein, qui est balbutiante, qui dit la reconnaissance par la fédération des sports nationaux non olympiques au niveau de la Russie est un grand pas en avant pour nous. Ils ont fourni un rapport à cette fédération sur l'état du développement de la Ligue de rugby au niveau de cet immense pays qu'est la Russie. Il a été accueilli positivement. Et donc maintenant, ils ont des rencontres en cours avec cette fédération des sports nationaux non olympiques au niveau de la Russie. Donc on peut être optimiste, un peu plus optimiste, sur le redémarrage du rugby à 13 au niveau de cet immense pays qu'est la Russie. Ensuite, au niveau des Amériques, il y a eu une réunion d'un premier comité directeur de la Ligue de rugby des Amériques qui s'est tenue récemment pour établir une feuille de route pour que justement ce continent devienne une confédération à part entière. Aujourd'hui, on sait que ce continent, le développement, le démarrage, le développement du rugby à 13 dans cet immense continent est suivi par deux entités. Pour la partie de l'Amérique du Nord, c'est la compétence de la Fédération européenne, de la Ligue de rugby à 13, et pour l'Amérique du Sud, c'est de la compétence de la Fédération australienne. Donc là, il y a actuellement un comité qui a été mis en place, auquel participaient la Jamaïque, les États-Unis, le Canada, la Colombie, le Chili et le Brésil, voilà, donc qui étaient représentés, enfin les fédérations ou les associations de rugby à 13 de ces pays-là étaient représentées et ils ont travaillé à bâtir une confédération de rugby à 13 américain, au niveau du continent américain, pour bien qu'elle soit ensuite au moins intégrée comme élément observateur au niveau de la fédération internationale, et puis plus tard, pourquoi pas, comme un membre à part entière. Ensuite, au niveau africain, dans le Ghana, c'est un pays d'Afrique centrale, hein, le Ghana actuellement est en train de développer le rugby à 13 dans ce pays, hein, il y a une fédération, hein, mais cette fédération est en train de regarder, d'essayer de recenser les joueurs qui auraient des origines ghanéennes et qui est des joueurs de rugby à 13 qui évolueraient dans d'autres pays du monde entier et qui auraient des origines, des antécédents ghanéens pour les faire intégrer l'équipe nationale du Ghana, de façon à permettre au Ghana de devenir un peu plus compétitif au niveau de cette compétition. Donc là, par exemple, dans la saison à venir, ils vont discuter des rencontres face à un voisin, le Cameroun, et ils souhaitent se qualifier pour le championnat d'Afrique et du Moyen-Orient qui devrait se dérouler fin 2021, début 2022, en fonction des problèmes du Covid. Alors, par exemple, il y a aujourd'hui, Andy Glivary, qui est l'entraîneur-chef, s'adresse aux joueurs de tous les du monde entier qui jouent dans des compétitions. Il est convaincu qu'il y en a qui jouent dans des compétitions australiennes, néo-zélandaises, britanniques, américaines, françaises, et qui ont un héritage ghanéen. Donc il les encourage à entrer en contact et à rejoindre d'autres trois joueurs qui ont déjà fait ce retour aux sources, par exemple les Britanniques Rhys Rents, qui joue à Coventry, Marcus Ney et avec Nilsson, qui joue à Brixton, voilà, donc qui ont déjà fait qui sont d'origine ghanéenne et qui vont être intégrés dans l'équipe du Ghana, et donc ils lancent un appel à tous les Ghanéens qui pratiqueraient le rugby à 13 dans d'autres pays, de se faire reconnaître auprès de leur fédération ghanéenne d'origine pour éventuellement revenir à leur source, à leur racine. Voilà, et puisqu'on parle de l'Afrique, alors une autre information, il faut savoir que justement il y a deux ou trois semaines, lors d'informations internationales, j'avais parlé justement de l'intérêt que portaient les dirigeants australiens de la NRL au continent africain, puisque je disais que l'avenir du rugby à 13 mondial pouvait se trouver au niveau du continent africain, puisque il pouvait y avoir sur ce continent un réservoir extraordinaire de futurs grands joueurs de rugby à 13. Et pour ce faire, il y a eu un pas qui a été franchi, puisque dès à présent, tous les pays d'Afrique reçoivent à présent, dans chaque pays d'Afrique, il y a une télévision qui reçoit gratuitement les matchs de NRL et qui diffuse, qui est en mesure de diffuser les matchs de NRL, c'est-à-dire que la direction de la NRL avec les chaînes australiennes qui diffusent les rencontres des Rennes, de NRL, ont décidé de distribuer gratuitement à l'ensemble de l'Afrique cette compétition, la visibilité de cette compétition, de façon à inciter, à donner envie à des jeunes Africains d'intégrer ce sport là où déjà il est par des balbutiements comme au Cameroun, au Ghana, en Afrique du Sud, etc. Et dans d'autres pays, eh bien, il a commencé à prendre corps des jeunes Africains et Africaines, hein, puisque on parle chaque fois à garçons et filles. Et puis dans d'autres pays où pour l'instant le rugby à 13 n'est pas encore sorti de son œuvre, eh bien, il y a donné envie aussi là aussi à des jeunes de pratiquer ce rugby qui n'est pas encore très connu, mais qui peut correspondre tout à fait aux qualités physiques de ces joueurs. Voilà. Voilà Roger, ce que je pouvais dire aujourd'hui au niveau des infos internationales. Roger ? Nicole ?
Quelle émission ? Est-ce que tu m'entends, Denis ?
Oui, je t'entends. Pourquoi vous m'entendiez plus ?
Alors, moi, je t'entendais parfaitement, mais visiblement, nous avons perdu Roger.
Oh, Roger, alors... Non, mais est-ce que... Bon, j'espère, l'essentiel, est-ce que les auditeurs m'ont entendu, quoi.
Ah oui, les auditeurs bon. T'ont entendu.
Voilà, c'est l'essentiel, Roger, s'il ne m'a pas entendu, tant pis pour lui. Allez,
alors,
en attendant...
J'ai essayé. On travaille dans des conditions difficiles ce soir. J'étais pas entendu. Si tu peux répéter...
Ah non, je ne vais pas répéter.
Non, je rigole pas, j'ai une coupure, j'ai rien entendu.
Eh bien, c'est pas grave, je t'expliquerai en antenne. Les auditeurs, eux, ont pas entendu.
Peut-être encore une chose très fine.
Non, mais il n'y avait pas de plaisanterie. C'était toutes les infos que notre ami Thierry nous a fournies, que j'ai données là.
Et tu as parlé de l'ordre catalan également vendredi. Non,
j'ai pas...
Voilà.
Je n'ai pas parlé, Dragon
Oui. Mais les Dragons catalans sont de retour sur Bisport pour quelques matchs et ça démarre, je crois, vendredi prochain, Denis. Voilà.
Le week-end prochain, oui, samedi prochain. Ou vendredi prochain, oui. On va voir comment les choses vont évoluer puisque les Dragons catalans et France, il y a un accord qui a été signé entre. Les Dragons catalans, les dirigeants des Dragons catalans et Beansport pour les 5 premiers matchs qui couvrent les 5 premiers matchs en France des Dragons catalans et les premiers matchs qui vont se dérouler en Angleterre de ces mêmes Dragons catalans, puisque en particulier ceux de la semaine prochaine. Alors, il faut savoir que c'est les Dragons catalans qui payeront la totalité des frais, c'est-à-dire aussi bien les frais de production des matchs qui se dérouleront à Brutus que les frais inhérents à la reprise des signaux de Sky Sport. Beansport ne paye rien, Beansport ne fera que diffuser. Donc c'est pour ça que pour l'instant, l'accord porte, donc, on va dire, avec ces cinq premiers matchs à Brutus, plus des matchs en arrière. Les premiers matchs en Angleterre, ça devrait nous amener peut-être à fin mai, début juin, tout ça, et ça, on verra plus clair pour la suite. Mais pour l'instant, c'est les Dragons catalans qui font l'effort pour que les matchs qui vont se dérouler à huis clos des Dragons catalans soient les villes sur la chaîne de Bilbao.
D'accord. Voilà. C'est très bon. Et vendredi, il y aura plusieurs matchs avec la première journée. Et les clubs vont tout jouer. Je crois qu'ils vont jouer à 18h les Dragons, et à 21h, il y aura aussi un autre match à la Super League. Voilà.
Nous verrons, parce que bon, les choses évoluent en fonction de ce que souhaite faire le Beansport ou pas, en termes financiers, évidemment. Voilà, donc, alors, pour ce week-end, on annonce, donc demain après-midi, il y a un match qui est télévisé d'élite, du championnat de France d'élite, qui est diffusé sur Via Occitanie, à 15h, alors c'est, ça démarre, je crois que la prise d'antenne est à 14h51, c'est le match qui va opposer les Villeneuve-sur-Lot à Albi. Donc le match se déroule à Villeneuve-sur-Lot, donc il sera en direct à partir de 14h51 sur Via Occitanie, voilà, donc qui reprend la diffusion des matchs de rugby à 13. Alors ça ne sera peut-être pas chaque week-end, mais il y aura apparemment régulièrement à nouveau des matchs de rugby à 13 sur Via Occitanie. Ensuite, sur Radio Marseillette, eh bien, ce week-end, nous aurons... demain, il n'y aura pas de match, puisque le seul match, il sera sur Via Occitanie. Par contre, on retrouvera les rencontres de dimanche, avec en direct, nous aurons le match qui se déroulera au stade Albert Domecq, le retour de Carcassonne 13 au stade Albert Domecq, Carcassonne qui n'a plus joué à domicile depuis le mois de novembre, donc les Carcassonnes vont enchaîner à présent les matchs à domicile au stade Albert Domecq, et dès dimanche, ils recevront les Broncos de Palau. Attention, dans un match qui s'annonce compliqué, hein, parce que cette équipe de Palau, elle reste, même si elle est dans les profondeurs du classement, elle reste sur de belles victoires. Elle a obtenu quand même régulièrement des points de bonus défensive lorsqu'elle a perdu. Lors du match avec les Carcassonnais avaient souffert énormément au stade Georges Weiss à Palau. Et cette équipe de Carcassonne, qui n'a pas joué de nouveau depuis 15 jours, devra être très prudente et faire très attention, prendre cette équipe de Palau très au sérieux, si elle ne veut pas connaître de désagréments à domicile. Donc ça, ce sera le match que nous suivrons en direct. Et nous ferons un point régulier sur le match qui se déroulera à l'Aiguille, en compagnie de Nicole. Nous ferons un point régulier sur le match de l'Aiguille, où se disputera la rencontre entre le 13 de Limoussin et le SO Avignon. Là, match aussi,
gros match
aussi entre deux équipes qui sont à la bagarre pour les places de 3, 4 et peut-être mieux, pourquoi pas. Donc gros match, avec face à une équipe d'Avignon qui revient bien. Hein. Et puis également, nous essaierons d'avoir quelques infos, si nous pouvons en avoir, du déplacement des Lézignans au stade Arnonnet à Toulouse, face aux Broncos de Toulouse, la réserve du Théo. Bon, là, ça devrait être plus facile pour le FSE Lézignan. Et puis le dernier match, c'est Saint-Gaudens qui sera opposé. Saint-Gaudens qui sera opposé. Je n'ai plus le dernier match. Ça va venir, excusez-moi, Saint-Gaudens contre Saint-Estève de Catalan, voilà, c'est le dernier club. Bon, je pense que les Saint-Gaudinois vont avoir du mal à résister aux Dragonnets.
Voilà. Alors Denis, comme il y a eu beaucoup de coupures, hein, moi j'ai passé un moment où j'avais plus rien au téléphone, hein. Est-ce que tu as donné le master Bernard Rock?
Non, je n'ai pas donné le master Bernard Rock, je n'ai parlé que des infos international, Roger.
Oui, non, mais j'étais coupé, moi. J'ai parlé. Ouais, les infos internationales, j'en ai entendu qu'une petite partie.
Ah, bon,
Oui, il y a plein de... C'est bizarre.
Je te les raconterai. Alors, eh bien, le master Bernard Rock, évidemment, sur lequel a travaillé notre ami Victor Jalbaud. Alors, la semaine dernière, il n'y a eu qu'un seul match, que vous avez pu suivre, c'est la victoire du 13 de Limoussin à Limoux face à Villeneuve-sur-Lot 14-10, difficile victoire mais victoire, donc ça permet à Limoux de marquer 2 points de plus, et le classement du master Bernard Rock actuellement est le suivant: premier Carcassonne qui est toujours devant avec 18 points pour seulement 10 matchs joués, Lézignan est second avec 16 points pour 11 matchs joués, et Limoux est troisième avec 14 points pour 12 matchs joués. Ce week-end, les trois équipes carcassonnaises les trois équipes audoises devant jouer, eh bien, on devrait peut-être décanter un peu mieux ce classement, voilà, qui est extrêmement serré, mais avec le fait qu'il y a quand même, toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs. Hein, voilà.
Voilà. Bon, on va se donner rendez-vous et dimanche. Hein. Bon, je rappellerai que demain matin, vous avez un match de NRL, hein, n'oubliez pas. C'est important. Qu'on a vu, j'ai pas si bien en parler, on a vu un paramètre à Melbourne, une pluie comme le point à Sodo et un match extraordinaire. Fabuleux, c'est vraiment régalé.
Exactement. Hier, voilà. C'était hier, vraiment, on peut se demander comment on peut censurer un
match. Oui. Et puis il y a encore du gars qui se... Allô ? Oui ?
Oui.
Il n'y a que le rugby à 13 qui nous donne des matchs comme ça, sur un temps comme ça. Hein. Et il n'y a que ce sport qui peut permettre des trucs extraordinaires comme ça.
Et on remercie, bon, c'est pas qu'on veut leur faire la publicité, mais nos amis Rodolphe Pires, Louis Bonnery et Beansport, de nous passer cette NRL qui nous montre ce qui se fait le mieux au monde en termes de rugby. Et on espère qu'une chose, c'est que les Anglais, puis d'autres, la France et puis d'autres nations, eh bien, même si nous sommes loin du niveau de cette NRL, eh bien, on suive un peu la trace qui est tracée par les Australiens, par ces nations de l'hémisphère sud, bon, qui ont des garçons vraiment d'exception, mais qui travaillent énormément et qui nous montrent pour des matchs d'un niveau extraordinaire. C'est le plus grand des rugby, mais c'est un des plus grands sports de la planète quand c'est joué à ce niveau-là.
Très bien, voilà. Bon, mais on va conclure là-dessus. On s'excuse pour les quelques coupures qu'il y a eu. Bon, c'est indépendant de notre volonté. Merci Denis, merci Nicole.
Et à dimanche.
Et à dimanche.
À 15h, un peu avant 15h, pour le coup d'envoi de ces matchs.
Au revoir.
Ciao.
Et je donne rendez-vous aux auditeurs dimanche matin, par contre, pour l'émission d'accordéon, avec comme chef d'orchestre fidèle et toujours le même Elian. Soyez à l'écoute dès dimanche matin, et puis nous, on arrivera vers 15h. Bonne soirée à tous et faites attention à vous.